Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Guillaume Ménard. À la réalisation, Émilie Valla, prise de son, Jean Frédérix.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Après avoir achevé notre série sur l'économie du voyage, nous explorons aujourd'hui l'univers du sport au croisement d'enjeux économiques et politiques. Ce soir, les Bleus affronteront les États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde de football, un match à haut risque qui nous interroge sur le traitement des femmes dans le monde encore très masculin du sport. La Norvégienne Ada Egerberg, première joueuse sacrée Ballon d'Or, a décidé de boycotter la Coupe du Monde pour protester contre les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Les footballeuses gagnent en effet 12 fois moins en moyenne que leurs collègues masculins. Des écarts de moins en moins tolérés par les joueuses qui mettent en avant leurs performances et leur succès d'audience. Alors comment expliquer la persistance de telles inégalités de salaire dans le football ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Vera Chiodi nous emmène en Amérique latine pour parler du recul des inégalités. Une question au cœur de l'ouvrage de Nora Lustig et Louise López-Calva. Trois invités autour de la table, deux pour le moment puisque Nicole Habar va nous rejoindre dans un instant. Bonjour Catherine Louveau.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et professeure émérite à l'Université de Paris-Sud. À vos côtés, Pierre Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à la Sports Management School, spécialiste de l'économie du sport et co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Et donc Nicole Habar qui est fondatrice de l'association Liberté aux joueuses, co-fondatrice du collectif Égal Sport et ancienne joueuse elle-même de l'équipe de France de football, nous rejoindra dans un instant. Un grand merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui.
La prudence, qui est mère de la sûreté, doit être aussi la mère de ces jeunes joueuses, car elles paraissent très timorées. Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais, pour ces ballerines du football, le classique entrechat. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger, car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage ?
Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse.
Voilà, on entendait une archive de 1955, suivie d'un extrait du journal de Jean-Pierre Pernaud, daté du 18 juin dernier. Il y a encore du travail à faire pour changer le regard porté sur les joueuses de football, Catherine Louveau.
Ah, ça me terrifie. Enfin, on m'en avait parlé, hein, de la déclaration de Jean-Pierre Pernaud, je ne l'avais pas entendue.
Alors, en l'occurrence de son journaliste, monsieur
Oui, du journaliste, enfin bon, mais on voit que 50 ans après, mais on pourrait même dire 100 ans après, enfin, les allusions, c'est-à-dire les références très stéréotypées à ce qui relèverait du féminin. Alors, on avait les ballerines, l'indéfrisable, etc. Et là, le tricot, le geste, enfin, c'est même... ça laisserait pour un peu sans voix d'être à ce point encore dans les stéréotypes attachés au féminin. Mais cela dit, lui, ça apparaît très clairement, mais en fait, ça ressort à beaucoup d'autres niveaux aussi, encore.
Ce que l'on constate, Pierre Rondeau, avec cette coupe du monde de football, c'est que d'un côté, on a effectivement cette permanence de stéréotypes et toutes les inégalités de salaire dont on va parler, et en même temps, une médiatisation une audience qui n'a jamais été aussi importante.
Et en même temps, ça marche, c'est tout le paradoxe. C'est l'idée, alors on l'a dit, hein, c'est TF1 qui a récupéré les droits de retransmission de la Coupe du Monde de football avec Canal+. TF1 voulant surfer sur l'engouement et la popularité du Mondial 2018 masculin et rappelant qu'il n'a payé que, si je puis dire, 10 millions d'euros pour avoir le droit de diffuser ses matchs contre 130 millions d'euros l'année dernière pour le Mondial masculin. TF1 a voulu rééditer justement ses performances d'audience et espérer, voilà, truster 5, 10, 15, peut-être 20 millions de téléspectateurs si la France venait atteindre les demi-finales, voire la finale. Donc on est dans un paradoxe où, on va le dire, hein, les filles, les femmes, les joueuses sont très mal payées par rapport aux hommes. Or, aujourd'hui, en tout cas actuellement, elles réalisent des audiences similaires à celles des hommes. Mmh. La justification économique des inégalités, c'était, ça a toujours été, en tout cas aujourd'hui, de dire, dès lors qu'elles rapportent moins d'argent, qu'il y a moins d'audience, moins d'audimat, moins de sponsors, il est normal, en tout cas justifié économiquement, qu'elles soient moins bien payées. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à un mur, puisqu'aujourd'hui, on réalise entre 10 et 11 millions d'audience pour chaque match de l'équipe de France. L'autre discours, c'est dire, c'est seulement l'équipe de France, parce que, voilà, on s'intéresse par patriotisme à notre équipe. Or, en France, les matchs de l'Angleterre, de l'Argentine, du Cameroun, d'autres nations féminines réalisent des audiences extrêmement intéressantes. On parle de 2 à 3 millions de téléspectateurs.
Pourquoi, en effet, c'est important peut-être de préciser, Catherine Louveau, que le football, c'est peut-être le sport ou l'un des sports où les inégalités sont les plus fortes aujourd'hui.
Enfin, les plus fortes, ça dépend de quelles inégalités on parle. Mais la médiatisation, par exemple, ça a été un combat, la médiatisation des sportifs de manière générale. C'est toujours un combat. En 2011, par exemple, il a fallu qu'il y ait une campagne faite par une association féministe, le milieu sportif, la fédération de football. Le ministère des Sports s'en est absolument pas mêlé, pas occupé, comme s'il n'était pas concerné. Pas de filles hors jeu, disait la campagne, parce que il n'y avait pas de médiatisation du mondial qui se passait en Allemagne. Et donc, ensuite, on a eu quelques matchs retransmis, deuxième partie de soirée souvent sur W9, C8, voilà. Et donc, ça ne fait quand même que, vous voyez, 7-8 ans, voilà. Et c'est pas fini parce qu'il y a un décret de 2004 qui prévoit quels sont les événements majeurs qui doivent être médiatisés pour le maximum de public. Mmh. Eh bien, seulement 6 événements concernaient les filles pratiquant des sports, le basket, le football, le rugby, etc. Et nous œuvrons, quand je dis nous, là encore, ce sont des combats qu'il faut tenir pour la modification de ce décret, et c'est pas encore terminé. Voilà.
Pierre Rondeau, sur la spécificité peut-être du football, parmi les autres sports, est-ce que ça vous semble le sport le plus inégalitaire, peut-être le plus misogyne aujourd'hui? C'est celui où il y a le plus de visibilité.
C'est précisément parce que c'est le plus visible et le sport le plus populaire du monde qu'on se focalise sur ces différences. Mais aller voir le rugby, aller voir d'autres sports, c'est peut-être pire. Le rugby, par exemple, les sections féminines ne sont absolument pas considérées par les instances et par la fédération. Donc, c'est justement parce que le football est le sport le plus populaire du monde. Pour le mondial masculin, par exemple, on parlait d'une audience pour la finale de la Coupe du Monde de plus de 1 milliard 300 millions de personnes. Et on estime que au moins 3 milliards de personnes sur Terre ont vu ne serait-ce qu'une minute du match. Donc voilà, c'est le sport numéro 1 sur Terre. Donc précisément parce qu'il est populaire, on va s'y intéresser, on va étudier les choses, on va observer les choses et on va constater des écarts de rémunération colossaux. Quand on voit que le salaire moyen en division 1 féminine est de 42
000 euros. La division
1,
c'est l'équivalent de la Ligue 1.
C'est voilà, la première division semi-professionnelle. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'un club soit professionnel. Donc semi-professionnel, il y a quelques clubs professionnels comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais. Le salaire moyen annuel, c'est 42 000 euros. 42 000 euros par an. En Ligue 1, cette saison, le salaire moyen mensuel, c'est 89 000 euros. Voilà, donc on a ces écarts de rémunération.
Et si on regarde le top 50 des sportifs français les mieux payés, qui a été publié par l'équipe l'année dernière, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas une seule femme.
Mais j'irais même plus loin, le top 100 mondial, au-delà des Françaises et des Français, le top 100 mondial, on a une seule femme, Serena Williams, qui est 63e de mémoire. 63e, la femme, la joueuse, la tenniswoman, la sportive, la mieux payée sur Terre. Une seule femme dans le top 100. Donc oui, effectivement, les femmes, au-delà du football, sont reléguées.
Mais alors justement, vous disiez qu'il y avait des arguments économiques qui étaient régulièrement mis en avant pour justifier ces écarts de salaire. Des arguments qui ne seraient plus justifiés, selon vous, à cause justement des excellentes audiences là de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut imaginer que cette Coupe du Monde est susceptible de changer la donne sur le plan économique et donc d'entraîner des augmentations de salaire?
Alors, il y a une réponse, bien évidemment, économique, hein, qui va par le marché roi, par le laisser-faire, permettrait en tout cas d'aboutir ou d'atteindre une forme d'égalité salariale ou de diminution des écarts. Dans la simple logique est de considérer que dès lors que ça marche, dès lors qu'on réalise des audiences colossales, la concurrence entre les chaînes de télévision pour la captation et droits TV va s'opérer et cela permettra une augmentation des prix.
Finalement, il faut peut-être laisser faire le marché.
C'est la logique économique. La réponse économique orthodoxe est de dire ne faisons rien, n'agissons pas, laissons faire le marché qui aboutira à un rééquilibrage automatique. Le laisser faire absolu finalement. C'est de dire aujourd'hui les filles sont moins médiatisées. Non, c'est faux puisque ça fait de l'audience. Donc comme ça fait de l'audience, la concurrence de TF1, beIN Sport, Canal+, France Télévisions, M6 ira chercher à capter ses droits de diffusion. Donc la concurrence permettra une augmentation des prix et de 10 millions d'euros des droits, on pourrait passer à 30, 40, voire 130 millions d'euros comme les hommes.
Et de fait, les salaires ont augmenté.
Mais il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Le premier élément, le plus simpliste, c'est le retard qui a été pris. Aujourd'hui, si je prends uniquement le championnat de France, les droits télé de la division 1, c'est 1,2 million d'euros par an. La Ligue 1 masculine, on est aujourd'hui à 748 millions d'euros par an et on va passer à 1 milliard 153 millions d'euros en 2020. Mmh. Donc quand bien on laisse faire, il faudrait un siècle pour atteindre un rééquilibrage.
Cela prendrait trop de temps, Catherine Louveau, de laisser faire le marché.
Oui, alors laisser faire les choses, c'est des choses auxquelles on a eu affaire. Par exemple, faut-il avoir des politiques volontaristes, imposer des quotas dans les fédérations pour que les femmes puissent participer dans les comités de direction, etc. La loi de Najat Vallaud-Belkacem d'ailleurs maintenant le permet, c'est tout à fait récent. On sait que quand on a laissé faire, par exemple, dans les élections à l'Assemblée politique, chez les députés, etc. dans l'Assemblée, on sait bien ce qu'il en est. C'est-à-dire, à partir du moment où on laisse faire, les choses se poursuivent, les pourcentages n'augmentent pas, donc il faut absolument des politiques volontaristes. Laisser faire le marché, c'est encore une autre question. Évidemment, personnellement, ça me pose un peu problème que soit opposé, c'est pas que vous opposez, mais que puisse être opposé la question économique, ou dissociée en tout cas, la question économique et la question de l'égalité. Parce que quand même, enfin bon, vous prenez les mesures, on voit les écarts démentiels, vous parlez d'un siècle, etc., entre les hommes et les femmes. Prenons la mesure sur les écarts de salaire. Dans le monde professionnel, la moyenne, on en parle tous les 8 mars, hein, à peu près entre les femmes et les hommes, on est entre 17 et 20% à travail égal, salaire pas égal. Bon, donc on est dans un rapport de 1 à 5. On est à des années-lumière.
Le football, c'est 1 à 12.
Oui, 1 à 12, et ça dépend de quoi on parle. Des primes, des salaires, les primes, c'est encore pire. Enfin, bon, voilà.
Le sport est peut-être le premier lieu où il faut lutter contre ces inégalités salariales.
Mais en tout domaine. Alors, au plan salarial, au plan des postes de dirigeants, au plan de la considération pour les pratiques dans lesquelles les femmes sont venues beaucoup plus tardivement, des sports que j'ai appelés de tradition masculine, le foot, le rugby, la lutte, l'haltérophilie, etc., etc. C'est le plus conservateur, c'est le plus en retard sur la question de l'égalité dans l'ensemble de la société.
C'est peut-être le secteur le plus en retard parce que, notamment sur le plan économique aussi, parce que le développement du football dit féminin a été en réalité entravé, Pierre Rondeau, pendant longtemps.
Justement, sur le point, le football est-il un sport masculin ? C'est intéressant de chercher à répondre à la question et de regarder ce qui est l'histoire du football et de constater que au début du siècle, notamment lors de la Première Guerre mondiale, les hommes partant sur le front, les femmes se retrouvant à l'usine pour remplacer la main d'œuvre masculine, se sont à leur tour mises à jouer au football. Et le football féminin s'est considérablement développé lors de la première guerre mondiale.
Ça a eu un grand succès.
Ça a eu un très grand succès. On oublie de le dire. En Angleterre, il y avait des stades qui pouvaient réunir jusqu'à 50 000 personnes pour une rencontre de foot féminin. Donc ça avait autant de succès que les hommes. Et c'était pas considéré comme un sport typiquement masculin. C'était un sport unisexe, les femmes comme les hommes. La seule chose, parce que justement, faut reprendre après l'histoire et l'explication des inégalités, c'est dès les années 20, et notamment en 1921, la fédération anglaise de football, a tout simplement décidé de dire non, stop, arrêtons cet engouement populaire, interdisons formellement la pratique du football féminin. La fédération anglaise a publié un décret interdisant formellement que les filles puissent jouer au football.
C'était pour des raisons économiques, politiques,
sous couvert d'argumentation scientifique gazeuse, de dire que c'était pas propice au développement féminin, mais en tout cas a interdit la pratique féminine. Et donc le football féminin a été bloqué dans son développement. Et il n'a fallu attendre que les années 70, en l'occurrence 1973, pour que l'UEFA reconnaisse enfin l'existence du foot féminin. Donc, si je reprends aujourd'hui l'argumentation économique qui de dire les femmes sont moins bien payées que les hommes parce qu'elles génèrent moins d'argent, parce que plus faible médiatisation, c'est uniquement dû à l'histoire du football de dire que pendant 50 ans, elles ont été interdites de pratique. Et donc, elles ont accumuler un retard de développement.
Mais la question étant aujourd'hui, est-ce qu'il faut rattraper ce retard d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que il devrait y avoir des systèmes de redistribution justement des bénéfices du foot masculin sur le foot féminin par exemple ?
J'ai des idées sur la question et les Américaines font des choses actuellement que je trouve extrêmement intéressantes, me demandant pourquoi elles ne se font pas en France. On aura peut-être l'occasion d'en
parler.
Oui. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de l'histoire effectivement du football. C'est-à-dire que c'est pas vraiment dû à la guerre, c'est surtout que à l'histoire Alice Milia, il faut la citer, donc, est une femme qui avait monté des sections féminines et donc sportive au sens faire de la compétition, donc du basket, etc. et aussi du football, de l'athlétisme, qu'il y a eu les premières manifestations pendant la guerre, justement, la Première Guerre mondiale. Et dans les années 20, il y avait beaucoup d'échanges et d'équipes de football entre l'Allemagne, les États-Unis, la France, les pays du Nord, etc. etc. Et en France, en tout cas, si ces équipes de football, si ce football a disparu, c'est parce que... D'abord, c'était dans un cadre Jeux Olympiques dit féminin, puisque de Coubertin ne voulait pas de femmes en athlétisme jusqu'en 1928. Donc, les sports de compétition, c'était impensable, c'était immoral, ça allait contre la nature des femmes. Elles risquaient de ne plus pouvoir faire des enfants, vous voyez, d'abîmer leurs organes. Enfin, les médecins s'en chargeaient beaucoup à cette époque-là, surtout donc, après les guerres, les politiques pronatalistes, vous voyez.
Donc, pour le loisir, c'était possible, mais pas pour la compétition.
Surtout, non, c'est la compétition qui gênait, c'est-à-dire l'exhibition dans les stades, voilà, en short, etc. Donc, l'athlétisme choquait, le football aussi. Et les clubs ont eu de moins en moins d'argent. Ça a failli arriver au rugby féminin il n'y a pas si longtemps, enfin au rugby des filles, il y a encore quelques temps. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'argent, les équipes disparaissent et donc ce sont un ensemble de compétitions qui risquent de disparaître. Donc, c'était pour des questions surtout morales. Ça ne se fait pas qu'une femme soit en sueur, ça ne se fait pas qu'elle soit dans la compétition. On les couvrait d'un manteau dès qu'elles sortaient des terrains, etc. Donc, les interdits étaient... Alors, bon, les Anglais l'ont dit clairement. Voilà. Et après, les premiers matchs des filles, bien avant que la fédération en France ne les accueille en 1970, c'est à la fin des années 60. Donc,
des considérations morales qui ont eu des conséquences économiques très importantes.
C'est la conséquence, en fait.
Alors moi, effectivement, je suis plus... ce qui m'importe énormément, c'est la problématique de l'égalité. C'est-à-dire, on a empêché, mais ça a été vrai pour des épreuves d'athlétisme, le 800 mètres supprimé en 1928, au milieu des années 70. Donc, il y a beaucoup d'autres choses comme ça, dont on a considéré, on sait qui, les hommes dans les institutions, les fédérations sportives, les clubs, qui dirigeaient tout ça, quand même. Et donc, qui ont décidé que c'était pas convenable, que c'était inconvenant pour une femme, de faire ce type d'activité.
Mais alors, depuis... Les choses avancent peu à peu. En l'occurrence, la Fédération australienne de football a annoncé début juin que les joueuses et les joueurs toucheraient désormais les mêmes salaires minimums en championnat australien. Il y a de réels progrès aujourd'hui, Pierre Rondeau ?
Il y a deux logiques qui s'opèrent dans l'économie du travail, en tout cas dans la logique de rémunération. Il y a la logique du pragmatisme économique, salaire égal productivité, vous gagnez ce que vous rapportez. Point final. La FIFA, par exemple, aujourd'hui, la FIFA verse une dotation financière pour le mondial masculin de plus de 400 millions de dollars, parce que les droits TV générés sont colossaux, parce que les revenus de sponsoring sont colossaux, donc attribue une dotation financière très importante. Et inversement, pour le mondial féminin, c'est 40 millions de dollars parce que les droits TV sont plus faibles et les revenus de sponsoring sont plus faibles. Pragmatisme économique, on gagne ce qu'on rapporte. Ce qu'a fait la fédération australienne, mais ce qu'a aussi fait la fédération nigériane, et ce que fait aussi la fédération française de handball pour les joueuses et les joueurs de l'équipe de France, c'est l'égalitarisme d'action. C'est dire, peu importe combien vous rapportez, peu importe combien vous touchez d'audimat, d'audience ou de personnes...
C'est une question éthique, c'est une question économique.
On n'a pas le droit de censurer, de discriminer la moitié de l'humanité. On pratique le même sport, peu importe les gains, les femmes touchent autant que les hommes, point final.
Alors j'accueille Nicolas Barre qui vient de nous rejoindre autour de la table. Bonjour Nicolas Barre.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association Liberté aux joueuses, cofondatrice du collectif Égal Sport et ancienne joueuse de l'équipe de France de football de 1977 à 1987, c'est bien cela ?
C'est ça.
Et alors justement, Nicolas Barre, je voulais vous poser aussi cette question de l'efficacité économique face à la question éthique. On a vu que dans la bataille qu'ont mené les footballeuses norvégiennes, mais aussi américaines, pour avoir de meilleurs salaires, la question de leurs résultats a été absolument centrale.
Alors oui, ce qui est intéressant pour les Américaines, c'est qu'effectivement, elles ont des résultats sportifs en soccer bien plus importants que ceux des hommes. Donc du coup,
elles ont gagné le mondial en 2015.
Voilà, quand on légitimise du coup la rémunération du spectacle proposé par ces joueuses et toutes les performances qu'elles peuvent apporter en les comparant avec celles des hommes, là, on se retrouve vraiment avec un hiatus, quelque chose d'assez anormal, puisque dans la mesure où elles sont, elles, X fois championnes du monde et que les garçons ne le sont pas, c'est elles qui devraient gagner plus que les hommes.
Mais d'une certaine façon, elles légitiment l'argument de l'efficacité économique.
C'est exactement ça. Mais en y réfléchissant, parce que cette question, elle revient beaucoup dans les médias en ce moment, c'est bien, hein, c'est bien qu'elle y soit. Je me suis fait une remarque, je me suis dit, mais combien gagnait Platini quand il était un des meilleurs joueurs du monde, en comparant aujourd'hui avec un Mbappé ou un Ronaldo? Il gagne rien à côté.
Mais c'est aussi une question, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aligner les salaires des femmes sur les hommes, étant donné le côté parfois complètement disproportionné du salaire de certains joueurs.
Oui, mais justement, les femmes génèrent moins d'argent, si on est vraiment dans le cas très concret économique, elles génèrent moins d'argent. Oui, c'est une réalité. Mais pourquoi elles génèrent moins d'argent? C'est pas une cause, c'est une conséquence. Elles génèrent moins d'argent parce que dans l'histoire, elles ont été discriminées. Et ça, les économistes ont tendance à l'oublier. Les économistes les plus orthodoxes, et les plus primaires, je dirais, disent tout simplement le revenu est tant, donc la rémunération est tant. Il n'y a pas à être choqué, il y a à justifier la rémunération. Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a moins d'audience? Pourquoi il y a moins de sponsors? Pourquoi il y a moins d'engouement, mis à part cette année? Mais autrefois, alors en 2011-2015, les matchs n'étaient même pas, ne passaient même pas à la télévision. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi pendant plus d'un siècle, voire deux, voire trois, voire des millénaires, les femmes ont été discriminées. Elles en subissent aujourd'hui les conséquences. Seulement aujourd'hui, on justifie cela sous un prisme économique.
Vous vouliez réagir tout à l'heure, Catherine Louveau, à la question des footballeuses américaines qui ont donc porté plainte pour protester contre les différences de rémunération. Comment s'est déroulée cette bataille judiciaire, justement?
Ça, je ne sais pas exactement comment elle s'est déroulée. Je sais qu'elles ont déposé une plainte et je sais qu'actuellement, il y a donc une proposition de médiation négociée pour que ce procès n'ait pas lieu. Bon, donc j'en suis là sur les dernières informations que j'ai eues. Mais en fait, elle demande à avoir donc des arriérés de salaire. Elle demande des rattrapages en fait par rapport à un temps historique et qu'elles ont gagné, etc. Et toutes les différences et les discriminations qu'elles ont eues. Moi, je trouve ça extrêmement important. C'est-à-dire qu'on peut considérer que l'histoire leur a fait prendre du retard, que les choses pourraient s'expliquer et non se justifier, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais ça n'empêche pas de déclarer et de dire, moi, ce qui m'embête, alors elles sont occupées à autre chose, l'équipe de France aujourd'hui, bien entendu, aucun reproche à leur faire, mais autour d'elles, ça ne se dit pas non plus, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'en France, il est aussi difficile de faire remarquer ces inégalités qu'elles sont inacceptables, que c'est discriminatoire. Il y a une espèce de frein, d'obstacle qu'on peut très bien analyser pour partie.
Il y a souvent une omerta qui est liée au fait que les joueuses sont encore en service, entre guillemets. Nicolas Barre, c'est plus facile de parler en ayant fini sa carrière.
L'américaine, elle est aussi en service. Hein, et vous voyez dans quelle position elle se met. Alors évidemment, il y a une prise de risque. Mais comment elle s'appelle, Billie Jean King, au temps du tennis, c'est grâce à elle aussi qu'il y a eu autant d'avancées dans les primes de tennis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles disent « ça n'est pas possible, on n'a pas les mêmes primes, on ne jouera pas ». Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des prises de position très claires et très fermes sur ce qu'elles revendiquent. Il y a un problème avec le féminisme dans le sport.
Et alors, comment expliquer cette frilosité, Nicolas Habard, si frilosité il y a?
Moi, je la relis à la problématique de l'histoire. On en a déjà parlé, je pense, autour de cette table. Mais moi, je suis la joueuse. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est jouer. C'est-à-dire que notre objectif, c'est notre passion, et on sait dès le départ, en tout cas jusqu'à présent, que ça peut pas être un métier, que c'est pas ça qui va nous faire vivre. Elle se retrouve, donc par rapport à moi, qui n'ai rien eu du tout, invisibilité, pas d'argent, certaines joueuses aujourd'hui se retrouvent dans une situation extrêmement confortable, on va dire, de visibilité, de reconnaissance, de rémunération, avec un budget, par exemple, à Lyon de 7 millions d'euros, ce qui est fantastique. Elles peuvent faire du sponsoring, elles ont des revenus de sponsoring, elles deviennent toutes commentatrices, c'est-à-dire elles ont une après-carrière qui est liée à leur pratique. Et tout ça, c'est énorme.
Et donc elles n'osent pas demander plus, d'une certaine façon, puisque c'est tellement plus important qu'avant.
C'est tellement monstrueux pour elles que je pense qu'aujourd'hui, c'est même difficile de se projeter dans une position un peu de militantisme pour essayer de porter la cause. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'elles vont finir par faire, peut-être la génération suivante. Mais je pense que cette génération-là, elle a tellement gagné par rapport à celles qui n'avaient rien, qu'à mon avis, elles ne sont pas en capacité d'analyser qu'il y a un combat à faire.
Pierre Rondeau.
Non mais oui, alors c'est vrai qu'effectivement, entre le vide absolu, le rien, et le quelques, voilà, plusieurs millions d'euros, comme l'Olympique Lyonnais qui a 7 millions d'euros de budget, effectivement, c'est vrai qu'il y a un gap énorme. Donc oui, elles peuvent s'honorer de cette différence. Mais après, qu'elles regardent la différence avec les hommes. On parle d'un budget de 7 millions d'euros pour l'Olympique Lyonnais et de 6 millions 5 pour le Paris Saint-Germain. Le budget masculin du Paris Saint-Germain, c'est 600 millions d'euros. Donc effectivement, il y a 30 ans, elles n'avaient rien. Aujourd'hui, elles ont certes beaucoup, mais elles n'ont rien par rapport aux hommes. Idem côté de la FIFA. Quand la FIFA dote 400 millions de dollars la Coupe du Monde masculine et 40 millions de dollars la Coupe du Monde féminine, alors que la FIFA c'est plusieurs milliards de bénéfices par an, on pourrait juste dire imposer l'égalitarisme des primes, non pas des salaires, mais des primes.
Et là encore, on retrouve cette différence entre le choix de l'égalitarisme ou le choix économique, parce qu'il y a aussi des voix qui s'élèvent pour dire les femmes vont trouver davantage de sponsors et vont effectivement gagner plus d'argent avec la pratique du naming notamment, qui permet aussi de gagner plus d'argent. Donc on voit que ce contraste continue à perdure, Catherine Louveau.
Bah oui, alors, demain sera forcément mieux, hein, si vous voulez. Sauf que c'est pas vrai, le progrès n'est absolument pas linéaire, que les acquis sont toujours reversibles. Le rugby, encore une fois, le rugby des filles a été menacé à un moment donné dans les tournois des 5 nations, etc. parce qu'il y a eu des problématiques de moyens qui se sont posées. Il y a eu un Tour de France féminin dans les années 81 qui précédait celui des hommes et qui faisait tout le Tour de France sur les mêmes étapes, certes un peu raccourcies, mais le même. Il est où maintenant? Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il a dit. Donc, moi, je n'applaudis pas tant que. Voilà, la question, c'est celle de l'égalité, c'est la manière dont on est traité, considéré. Et je pense que s'il n'y a pas de position volontaire, volontaristes même, qui sont prises autant au niveau de l'institution qu'au niveau des sportives elles-mêmes. Ça se fait dans d'autres pays. Il y a vraiment...
Justement, ça se fait dans d'autres pays, mais pas forcément à tous les niveaux. Par exemple, en Norvège, il y a eu un accord qui a été signé entre les capitaines des équipes féminines et masculines en 2017, qui instaure l'égalité salariale entre les deux équipes, mais c'est uniquement les équipes nationales. Donc on voit que à chaque fois, c'est un échelon différent, qu'il y a des progrès, mais c'est difficile d'avoir un progrès global, en fait, Nicolas Barre.
Bah, c'est normal, parce qu'au niveau d'une équipe nationale, elle est chez elle, la fédération. Elle a le pouvoir de dire et de faire ce que vous demandez. Elle a la maîtrise de ses équipes nationales. Ensuite, quand vous vous adressez au club, bah, vous vous adressez à des entreprises qui ont, elles, du coup, un produit qui se vend ou qui se vend pas et qui rapporte.
Mais vous... Donc, savez, pour vous, il ne faut pas faire porter trop la responsabilité aux fédérations, c'est ce que vous voulez dire?
Les fédérations peuvent, elles, prendre ce genre de décision. Voilà, elles ont le pouvoir de le faire. Donc, la FIFA peut le faire aussi, si elle le veut. Mais les clubs, on peut pas leur imposer. Ils participent à un championnat. Je voudrais juste faire une remarque.
Je vous en prie.
Si c'était si simple, expliquez-moi pourquoi, encore aujourd'hui, on a 20% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Si c'était si simple...
Mais voilà. C'est que 20%, Nicole. Je l'ai dit tout à l'heure,
c'est que 20%,
entre guillemets.
Mais malgré tout, on n'y arrive pas.
Non, mais c'est évident que le combat est particulièrement difficile, Catherine Louveau.
Le combat est difficile, certainement, encore. Il y a la question des moyens qui sont mobilisés, il y a la question des positions, c'est-à-dire des options politiques, hein, de l'institution sportive, c'est-à-dire... Le ministère, on l'entend pas beaucoup. Voilà, donc de la fédération, les ministères, la responsabilité n'est certainement pas sur les clubs. Ce qui m'embête beaucoup, c'est le relativisme, c'est-à-dire que j'entends beaucoup ces derniers temps. Oui, mais bon, c'est pas grave, après tout, on a quand même eu, nous aussi, des moyens pour nous préparer. C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc, bon, ça finira par venir, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées, donc dans l'égalité entre les femmes et les hommes, si on était dans ce relativisme.
S'il n'y avait pas eu cette volonté de se battre.
Mais bien entendu, on est bien obligé de mettre en place, de prendre des options, de faire des choix, des arbitrages, etc. Et il faut que ça change dans les arbitrages, que les arbitrages deviennent de plus en plus qu'il y ait des décisions, des politiques volontaristes, enfin voilà.
Pour et en l'occurrence, certains sports sont beaucoup plus égalitaires que d'autres. Le tennis, par exemple, ça montre bien que c'est possible, Pierre Rondeau.
Dans les seuls tournois du Grand Chelem, attention, dans les tournois enfin, inférieurs ou secondaires que les tournois du Grand Chelem, enfin les quatre tournois du Grand Chelem que sont Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie, dans ces tournois du Grand Chelem, les dotations financières sont strictement égal entre le tableau féminin et le tableau masculin. Il n'y a pas de différence. Quand bien même cela soit critiqué par certains joueurs masculins qui considèrent que en jouant des matchs plus longs devant plus de monde avec une audience plus importante, pourquoi devrait-il être aussi bien payé que les filles? Mais il y a des fédérations, les tournois du Grand Chelem en tennis,
le surf,
certaines fédérations font le choix justement d'aller à l'encontre de la logique économique et pure et dure économique, de dire non, quand bien même les filles rapportent moins que les hommes, c'est dû à un retard historique et structurel qu'on ne peut pas assumer, donc on va aller au-delà de cette histoire et on va considérer simplement que la moitié de l'humanité doit être aussi bien payée que l'autre.
Après, il peut y avoir des égalités de salaire, mais pas des égalités de primes. Donc on voit qu'il y a encore une fois plusieurs niveaux d'égalité.
Oui, mais c'est justement la différence. Il y a trois formes de rémunération pour un sportif ou une sportive de haut niveau. Il y a les salaires qui émanent de son club, lorsque le sportif ou la sportive est professionnel. Il y a les primes qui émanent de la fédération et le revenu sponsoring, lié aux partenaires commerciaux. On peut agir directement au niveau des primes, ça c'est une évidence. Les fédérations peuvent directement acter l'égalitarisme entre les filles et les garçons au niveau des primes. La question du salaire et la question des partenariats commerciaux, elle est plus compliquée puisqu'on ne peut pas imposer une égalité de traitement pour une même entreprise. Ce qu'on pourrait dire par contre, c'est que les clubs, je pense notamment à Lyon ou au Paris Saint-Germain, qui ont des sections féminines très puissantes, les clubs ne peuvent pas avoir l'obligation de payer aussi bien les filles que les hommes. Mais par contre, ils devraient avoir l'obligation de créer des sections professionnelles. Aujourd'hui en France, par exemple, la Fédération Française de Football recommande à ce qu'un club professionnel crée une section féminine. Une simple recommandation. Ce n'est pas une obligation. Et il y a aujourd'hui...
Mais ça a déjà un impact.
Ça a déjà bien... Ah oui, voilà. Entre voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, on peut considérer que oui, ça a déjà un impact. Oui, des clubs se sont déjà créés. Par exemple, on a annoncé en grande pompe cette semaine la création en 2020 d'une section féminine au Real Madrid. Le Real Madrid, le club le plus populaire du monde, 13 fois champion d'Europe, club élu club du siècle au XXe siècle, qui n'avait jusqu'ici aucune équipe féminine, aucune section féminine. Et en grande pompe, on dit merveilleux, la Maison Blanche crée une section féminine en 2020. Le club est plus, a plus de 100 ans, donc c'est quand même une anomalie.
Il y a des avancées qui existent tout de même, et je voudrais vous faire entendre la championne de snowboard, Anne-Flore Marxer.
Dans mon expérience personnelle, en montagne, j'ai jamais vraiment eu le problème parce que finalement, mon raid était suffisamment engagé pour gagner le respect de tous les mecs en montagne. Le problème, c'est dans la structure sportive et dans l'industrie des marques qui sont liées à ces sports-là. Pour améliorer les choses, il faudrait qu'il y ait une plus grande diversité dans les personnes qui sont responsables d'investissements financiers, d'organisations sportives, de structures ou d'événements. Comprendre que finalement, la plus grande diversité on aura dans les gens qui vont être décisionnaires du sport sera traduite par une plus grande diversité dans les pratiquants du sport.
Ce sont les structures sportives et économiques qu'il faudrait changer, Catherine Louveau, et pour cela, ça impose de changer les mentalités, le regard qui est posé sur les joueuses.
Ah bah les deux vont de pair, mais c'est vrai que là, après, on a des positions différentes. Moi, je privilégie la problématique sociale, sociétale, de l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, on est loin de l'égalité. Vous me demandiez tout à l'heure si le football était un des plus inégalitaires. Dans un grand sondage de Kantar Sport, je suis obligée de le citer cette année, sur les sports, les filles, les garçons, il y a encore 25% des mères de famille qui ne voudraient pas que leurs filles fassent du football. Juste peu de mois, un mois et demi avant le mondial. Donc, ça fait quand même beaucoup.
Et alors, pourquoi cette crainte? Quelles sont les représentations qui sont associées au sport dit féminin?
Ah oui, alors là, la question qui revient beaucoup aussi en ce moment, qui est beaucoup posée, c'est celle de la féminité des sportives. Enfin, bon, sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois sur le fait que on attend d'elles qu'elles soient féminines. Ça fait 150 ans qu'on pose la question de la compatibilité entre une pratique sportive et est-ce qu'elles sont des vraies femmes, des femmes, sont-elles suffisamment féminines? Alors on voit les symboles, les talons aiguilles, les choses comme ça qui sont associées dans les images. Donc il y a toujours une crainte, mais c'est pire d'ailleurs des mères de famille et des pères de famille par rapport à un petit garçon qui veut faire de la danse, parce qu'évidemment il y a l'équivalence, et donc on a peur que, mais s'il allait se transformer, non pas en fille, mais s'il allait devenir homosexuel, tout simplement. Et d'ailleurs, et les footballeuses qui font des sports masculins, donc elles sont performantes, musclées, et donc sont-elles quand même des femmes, parce que les sportives elles-mêmes reprennent ça, je suis quand même une fille.
C'est ça, il y a une intériorisation, c'est une volonté de répondre à des attentes. On attend d'elles qu'elles correspondent aux clichés qu'on peut avoir de la femme.
Non seulement on attend d'elles, mais on leur impose. Voilà.
Comment ça se manifeste concrètement? Vous diriez qu'il y a un retour en arrière sur ce point?
Ah, on régresse globalement, on régresse beaucoup, oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'elles aient les cheveux longs, qu'elles se maquillent, qu'elles mettent du vernis à ongles, des bijoux, etc.
Ce n'était pas le cas, c'était pas le cas avant.
Pour l'ensemble des sportifs, bien sûr que non. Dans les années 70-80, quand on regarde de l'athlétisme, quand on regarde des sports collectifs, du cyclisme, etc. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a un travail de l'apparence au sens des rituels féminins, donc des éléments qui appartiennent à l'esthétique, etc., des femmes, pour que ça soit mieux vendable. Donc là, la question économique, on voit bien, personne ne le dit, hein. à part moi, mais en tout cas, on voit bien ce qui est en cause, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'impression, que le public ait l'impression qu'on a toujours bien affaire à des vraies filles, à des femmes qui vont faire du football et qu'il n'y a pas de danger pour leurs petites filles ou pour leurs petits garçons par ailleurs.
Le fait que les enjeux économiques soient plus importants aujourd'hui dans le football féminin notamment, Nicolas Barr, ça a entraîné ces injonctions de plus en plus fortes à l'égard des femmes ?
Bah oui, parce que vous vendez un produit.
Vous, dans votre expérience, vous ne l'aviez pas ressenti de cette façon-là.
Vous faites du marketing, vous essayez de le rendre beau, attractif, spectaculaire. Voilà, et on voit bien que même des fois, les règles du jeu sont adaptées pour que l'activité soit encore plus spectaculaire, que ça passe à la télé, on prend le volet par en dessus. Enfin, vous voyez, on essaye de tout faire pour en faire un produit. Le vrai débat, et c'est ce que nous disons tous autour de cette table, c'est est-ce qu'on fait un choix sur les valeurs du vivre ensemble, sur notre société, avec de l'éthique, avec des valeurs de base et de fond, et dont l'égalité, ou est-ce qu'on continue à être sur une logique de marché et une logique économique, hein.
C'est le vrai débat. Catherine Louveau.
Oui, je voudrais ajouter que c'est quand même très spécifique au sport, cette question-là de l'exigence, hein, des injonctions d'apparence, de féminité, enfin d'attributs de féminité qu'elle les porte. Est-ce qu'on demande à une femme ingénieure, une femme physicienne, une femme technicienne, alors a fortiori une ouvrière ou une chauffeuse de poids lourd, de se maquiller, de mettre du vernis à ongles, de se mettre des bijoux?
Les injonctions pèsent sur toutes les femmes quand même.
Oui, mais je répète, est-ce qu'on le demande, est-ce qu'on l'impose à des femmes qui sont dans des métiers historiquement et actuellement? Parce qu'il n'y a que 28% de femmes parmi les ingénieurs. Hein. Donc c'est pas un métier du tout féminisé. Et donc, est-ce qu'on leur impose, ou aux femmes politiques si vous voulez, voyez, où elles ne sont pas nombreuses?
Les injonctions à la beauté, encore une fois, elles ne sont peut-être pas spécifiques au monde du sport.
À ce point-là, les exigences qui sont imposées, par exemple, la Fédération Internationale de Badminton a voulu imposer la jupette à ses équipes. Elles ont refusé, en disant qu'elles n'étaient pas là pour faire sexy.
Cela aussi était proposé pour le football. Sablateur, bon, voilà. En 2000, donc, il a demandé est-ce qu'il porte des jupettes. Donc oui, ça.
Et les dirigeants de la fédération ont répondu « Ah, mais c'était pas ça la question, c'est pour rendre plus attractif. » Oui, plus attractif quoi? C'est-à-dire avec la jupette qu'on va filmer à l'arrière. On sait bien comment c'est filmé le beach volley. Hein,
mais alors justement, ce serait comme si le sport était en quelque sorte le miroir grossissant des problèmes qui traversent toute la société.
C'est le corps. C'est d'abord le corps qui est engagé. Le corps qui porte nos appartenances sexuées. Et on voit bien à quel point, d'ailleurs, c'est très, très... Dans la société, il y a beaucoup de difficultés, quand même, avec les questions de transgenre, homophobie, etc., etc. Parce que, toutes ces questions qui sont posées par le transgenre, les problématiques de genre, masculin, féminin, créeraient du désordre social, en quelque sorte.
Nicolas Barr, vous diriez, vous aussi, que l'histoire du sport s'est construite par et pour les hommes?
Ah bah oui, mais ça fait des millénaires. Moi je suis quelqu'un de pragmatique. J'adore intervenir avec Catherine parce que elle explique vraiment bien les choses. Moi je suis une femme de terrain. Moi je vais vous parler de chaussures, de petits pieds et de chaussures. Regardez comment sont chaussées les petites filles et comment sont chaussées les garçons. Déjà rien que ça. Et quand Catherine elle vous parle du corps, elle vous parle de ce corps que moi j'aime décrire, joyeux, bondissant, vivant, qui traverse des espaces, qui tombe, qui se fait des bosses. Les petites filles, sans qu'on leur dise rien, elles vont au coin. Je pense que c'est ma façon à moi de vraiment apporter un témoignage. Elles le font, mais personne ne leur dit. Et elles intériorisent que c'est leur place. Et on attend d'elles un certain nombre de comportements. Elles ont 3 ans. Vous voyez?
Donc le travail à faire, pour vous, il est vraiment en amont, dès le plus jeune âge?
Si on veut changer durablement la société pour vraiment effectivement arriver à une égalité réelle dans notre pays, je pense que c'est par eux qu'il faut commencer. Sauf que le problème, c'est que ça va prendre quand même un peu de temps, parce qu'il faut qu'ils grandissent. Donc si on est sur la question qui se pose aujourd'hui, il va falloir qu'on attende 20 ans, quoi, pour espérer que la génération qui vient aura eu l'occasion de se construire à égalité, d'être éduquée à égalité avec un petit corps qui fonctionne dès le départ, partout et tout le temps et tout au long de la vie.
Mais alors par quoi cela passe justement de plus associer le sport à la virilité, à la masculinité?
Le travail immense, les éducateurs, les parents, ça commence avec les jouets. Enfin, ça commence avec les manipulations corporelles, mais dans la prime enfance, ça commence avec les jouets. Les jouets des filles, moi, c'est pas le rose et le bleu que je trouve important, et la régression, elle est pas là. Elle est dans la motricité qui est incluse dans les activités, les jouets, etc. D'abord, qu'est-ce qu'on promet pour l'avenir des femmes? Les poupées, donc les bébés, donc la maman, la future femme, la belle femme sexy, point final. C'est tout leur avenir, hein, quand même, à travers les jouets. Les garçons, pendant ce temps-là, pompiers, policiers, héros, conducteurs de ceci, ingénieurs de cela, etc.
Donc vous dites, mère de famille, inscrivez vos filles au foot.
Et attendez, sur la motricité, les jouets des filles, c'est à la maison, c'est statique, c'est l'intérieur enfermé, statique, elles bougent pas. Les garçons, eux, toutes leurs activités, les petites voitures, les avions, les pompiers, les voitures, la construction, les bulldozers, ils construisent et ils explorent l'espace. Vous voyez tout de suite la différence. Donc évidemment, ils explorent l'espace, elles sont à la maison, retenues dans les coins, comme l'a très si bien remarqué Nicole. Et ensuite, qu'est-ce qu'elles vont faire? De la danse et de la gymnastique rythmique, esthétique, à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Du judo et du football. Ça commence là.
Donc il y a l'éducation et il y a aussi la politique pour faire en sorte que les fédérations s'ouvrent davantage aux filles, Nicolas Barre, même s'il y a eu des progrès, il y a encore beaucoup à faire sur ce point.
Alors, les textes sont là, hein. Dire, il y a des gens qui ont travaillé bien avant nous, qui ont mis en place des textes. Ensuite, il faudrait quand même qu'on accélère un petit peu, et ça c'est possible, sur les mentalités, et que dans cette évolution des mentalités, on arrive à l'expression d'une volonté. Une volonté avec, justement, ben, j'affiche mes valeurs, et je prends le risque de dire que du coup, ce fameux produit qui justifie tant d'inégalités, eh bien j'en fais une niche, et que sur cette niche, en tant que bon économiste, j'investis, je prends le risque, et dans un premier temps, je sais que je vais pas gagner, mais je vais le faire fructifier. C'est ce qui est en train de se passer.
C'est précisément ce qu'a fait TF1, par exemple.
Voilà.
Alors, c'est tout de même un risque assez minime, puisque TF1 n'a payé que, si je puis dire, 10 millions d'euros les droits de diffusion. Mais TF1 a pris ce risque, en tout cas ce pari, de miser sur le football féminin, et pour l'instant, c'est un pari gagnant, puisque les audiences sont là. Et très certainement, même c'est pas très certainement, c'est, oui, ça va le faire, TF1 gagnera plus d'argent grâce au mondial féminin que le mondial masculin, parce que le mondial masculin a certes généré beaucoup d'audience, mais a coûté beaucoup d'argent. Donc au niveau du seuil de rentabilité, encore une fois d'un point de vue strictement économique, c'est plus intéressant de parier sur le foot féminin que sur le football masculin. Je voudrais juste revenir, très intéressant, sur le produit. Effectivement, si on place le curseur uniquement sous un prisme économique, on s'intéresse à un produit, on vend du football, et si le produit fonctionne, bah on récupère l'argent qui a été investi. Mais d'où vient ce produit? Et pourquoi on s'intéresse à ce produit? C'est pour ça que même si je suis un économiste, je voudrais quand même toujours m'intéresser au structuralisme et aux institutions, à l'histoire, aux sciences sociales, à l'origine. Ce produit est prisé ou est méprisé, ce produit est considéré ou est inconsidéré, parce que historiquement, il est la réponse de toute une formation sociale et sociétale entre les filles et les garçons. On l'a dit dans les cours de récré, dès l'enfance, dès l'éducation, toute une logique de sexe et d'éducation qui fait qu'aujourd'hui, 98% des lecteurs de l'équipe sont des lecteurs et non pas des lectrices. Donc l'équipe va mettre en avant le sport masculin, parce qu'il répond à une demande de produits.
D'où la nécessité de mêler la sociologie et l'économie, selon vous. On arrive presque au terme de cette discussion.
Quand on fait l'économie, on ne fait pas de l'économie statique. On s'intéresse à l'ensemble des choses et des phénomènes sociaux.
Et alors, il y a le match France-États-Unis qui commence à 21h ce soir. Les Bleus vont tenter de gagner leur place en demi-finale. Un pronostic, Nicolas Barre?
Ah, si elle se lâche enfin. Hein, si elle, je pense qu'elle laisse tomber un petit peu le poids et les responsabilités qu'elles ont eues depuis le début de la compétition, parce que je pense que l'équipe avait très peur de Paris en quart de finale, c'était quand même l'objectif de départ. Là, je crois que ce soir, on va peut-être enfin voir la vraie équipe de France avec tout un tas d'enthousiasme, un engagement physique, une détermination, et j'espère qu'elles vont rien lâcher. Si elles font ça, elles peuvent gagner. Mais si elles le font pas, elles auront beaucoup de regrets, alors je leur souhaite vraiment de s'éclater, qu'elles prennent du plaisir et qu'elles y aillent à fond.
Et bien, plaisir aussi. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Catherine Louveau, Nicolas Barre, Pierre Rondeau. On souhaite évidemment bonne chance aux Bleus pour ce soir. Il est 14h43 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui éclaire les grands enjeux économiques contemporains. Aujourd'hui, on se plonge dans l'ouvrage co-dirigé par Nora Lustig et Louise Lopez Calva, intitulé « Diminution des inégalités en Amérique latine, une décennie de progrès ». Et c'est Vera Chiodi qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en économie à l'Université Sorbonne Nouvelle et à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Alors c'est un économiste mexicain, Luis López Calva, et une économiste argentine, Nora Lustig, qui se sont associés pour retracer une décennie de recul des inégalités en Amérique Latine dans les années 2000. Qu'est-ce qui les a décidés à se lancer dans ce vaste projet ?
En fait, c'est une décennie qui est assez particulière. On l'a appelée la décennie gagnée, un petit peu en contraposition aux années 80, on l'avait appelée, suite à la crise de la dette externe, la décennie perdue. Et en fait, c'est aussi un constat très important de diminution des inégalités dans toute la région, suite à un contexte international assez favorable de prix des matières premières très élevés et taux d'intérêt international très faible. Et voilà le constat de s'interroger sur les sources, sur les causes de cette diminution des inégalités.
Et alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de se concentrer sur quatre pays en Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, le Mexique et le Pérou ?
En fait, ce sont des pays qui sont, on les appelle donc les pays de revenus moyens, et là où l'accès aux données, c'était, disons, relativement facile, donc l'accès à la production de données statistiques, de bons indicateurs. Et après, ce sont des pays qui ont des similitudes, des différences, des taux de croissance relativement importantes, des programmes de transfert monétaire conditionné qui se sont développés très fortement dans les quatre pays.
Mais avec des régimes politiques différents, on va le voir. Alors d'abord, qu'est-ce qui explique, selon Nora Lustig et Luis López Calva, la hausse des inégalités en Amérique latine dans les années 80 et 90? Ils commencent dans leur ouvrage par faire ce constat.
Les années 80, c'est la crise de la dette externe, donc, et ensuite les années 90, c'est la décennie du consensus de Washington.
Alors expliquez-nous, rappelez-nous peut-être ce qu'est le consensus de Washington, qui est donc décidé, défini par le FMI et la Banque mondiale.
C'est un paquet de mesures que les pays ont plus ou moins tous appliquées dans les années 90. Le Chili l'a fait bien avant, fin des années 70. Et c'est intéressant comment Nora Lustig, c'est pour ça que je l'ai choisie, elle a un petit peu participé avec des contributions au niveau de la recherche et aussi au niveau des politiques publiques. Par exemple, dans le consensus de Washington, elle, elle a mené aux États-Unis, à Washington, dans les années 90, ce qu'on a appelé le Washington Exchange, donc l'échange à Washington. Donc c'était cette idée que ce paquet de mesures de privatisation des entreprises publiques, de réduction des déficits publics très très importants, était mise en place de manière avec des coûts sociaux très élevés, inégalité, pauvreté, chômage. Et donc, ce Washington Exchange a invité plusieurs ministres d'économie de la région à discuter avec les think tanks, avec Brookings Institute, avec d'autres think tanks de Washington, et les journalistes et aussi des organisations internationales, afin de parler combien c'était difficile de mettre en place ces mesures. Par exemple, l'ex-président vénézuélien Hugo Chavez, ministre à l'époque, était présent.
Alors, ce que vous voulez dire, c'est que Nora Lustig était à la fois observatrice de ce phénomène et en même temps actrice.
Exactement.
Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ces programmes d'ajustement structurel, effectivement, ont eu un impact très fort sur les populations les plus vulnérables, qui souffrent le plus en cas d'inflation élevée, et ça a été le cas pendant des années, dans les années 80 et 90, dans les quatre pays qui nous intéressent aujourd'hui.
Exactement. La crise de la dette a comme corollaire, évidemment, cette crise inflationnaire.
Oui. Avec cette idée qu'il n'y avait pas assez de filets de sécurité pour les plus pauvres et une insuffisante égalité des chances, sans même parler des discriminations qui pouvaient exister à l'égard des femmes, des non-blancs. Tout cela participe de ce mouvement de paupérisation auquel on assiste dans les années 80-90.
Bien sûr, et aussi la diminution des inégalités des premières années du millénaire. Un des deux origines, c'est une transformation, un ajustement dans le marché du travail. Dans les années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Ces inégalités ont augmenté parce que, avec la libéralisation commerciale, évidemment aussi produit du consensus de Washington, avec l'importation de technologies, il y a eu une forte demande de travailleurs qualifiés. Donc, dans un premier temps, on va voir dans les années 90, il y a eu une espèce de polarisation dans le marché du travail, donc une augmentation des inégalités du salaire, étant donné qu'il n'y avait pas encore cette démocratisation et d'accès à l'éducation très très importante. Donc il y avait une polarisation très forte entre une petite fraction dans le marché du travail de travailleurs qualifiés et le reste de travailleurs non qualifiés.
C'est-à-dire qu'à la crise de la dette de 82 a succédé une période de croissance économique, mais qui a davantage profité aux populations qui étaient déjà les plus aisés et les plus qualifiés au détriment des populations moins aisées.
Exactement. Dans les années 90, il y a une augmentation du chômage, de la pauvreté très très importante qui se manifeste par exemple dans la crise de tequila au Mexique, ensuite dans la crise au Brésil, dans tout le cône sud, et qui ouvre la porte finalement au début des années 2000 à ce qu'on a appelé la marée rose.
Et alors qu'est-ce qui explique justement que les inégalités ont commencé à reculer vers le milieu des années 90? Dans quel contexte économique et politique est-ce que cela intervient?
Donc, c'est surtout à partir des années 2000, de manière générale dans la région, il y a deux facteurs qui sont importants. Donc, c'est ce que l'ouvrage essaye d'expliquer. Dans un premier temps, c'est le rôle de l'éducation dans la diminution des inégalités de salaire, parce que le ratio des travailleurs qualifiés sur les travailleurs non qualifiés augmente. Donc, dans le marché du travail, vous avez plus de travailleurs qualifiés que de non qualifiés, à l'inverse de ce qui se passait dans les années 90. Donc c'est ça le premier volet. Et l'autre facteur qui explique la diminution des inégalités en Amérique latine, c'est d'autres sources de revenus. Et donc ce sont des sources de revenus qui ne sont pas liées au travail. Donc on connaît les revenus liés au capital, les revenus liés aux envois d'argent, aux remittances, mais aussi ces grands programmes de transfert monétaire conditionnel qui se sont mis en place dans la plupart des pays d'Amérique latine. Le Mexique a été vraiment le pays pionnier en 96 pour mettre en place Progresa, ensuite appelé Oportunidades. Le Brésil, c'était Bolsa Familia.
Alors avant de venir plus en détail sur ces programmes, en effet, de redistribution en faveur des plus pauvres, un dernier mot peut-être sur cette répartition plus équitable des revenus du travail. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Vous en avez donné certains, Vera Chiodi. Quel a été aussi le rôle joué par l'arrivée de salaires minimums à la fois au Brésil et en Argentine? Ça a joué un rôle important?
Mais bien sûr, ça c'est une lutte qui venait de la création des syndicats bien avant les années 80.
Mais alors comment expliquer, bien comprendre le phénomène qui est à l'œuvre et qui a permis justement de réduire les inégalités entre les salaires des travailleurs qualifiés et les salaires des travailleurs les moins qualifiés?
L'accès à l'éducation. Aujourd'hui, évidemment, l'accès à l'éducation, ce n'est plus un vrai enjeu de taille en Amérique latine. L'accès à l'éducation, c'est aujourd'hui plus de 95% pour la plupart des pays. Aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, c'est plutôt la qualité de l'éducation.
Alors justement, c'était l'une des grandes innovations au Brésil, la Bolsa Familia. C'était l'idée de donner des prestations sociales en échange de l'assurance que les familles envoyaient bien leurs enfants à l'école.
École, donc oui, ce sont des programmes qui n'ont pas commencé au Brésil. La plupart va attribuer ce type de programme au cas brésilien, à Bolsa Familia, mais c'était le Mexique, avec Santiago Levy, qui l'a mis en place pour la première fois en 96. Donc ce n'était pas Lula. Et oui, c'était un programme d'accumulation de capital humain, finalement, de redistribution des revenus, de soutien aux revenus par un transfert monétaire conditionnel à l'accumulation de capital humain.
L'accumulation de capital humain, c'est l'éducation.
L'éducation et la santé. Et aussi, il y avait une autre composante, qui c'est la composante de genre, parce que ce transfert monétaire était donné aux mères.
Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, Vera Chiodi. Ça veut dire que le Mexique a finalement été un pays pionnier en matière de politique sociale, alors même qu'il était dirigé à ce moment-là par un gouvernement de droite.
Effectivement, c'est très bien de dire cela. La plupart des programmes, c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Colombie, c'est le cas aussi en Mexique. La plupart de ces programmes ont été initiés par des gouvernements de droite, bien avant ce qu'on avait appelé la marée rose. Par exemple, en Argentine, l'actuel président Mauricio Macri était maire de la ville de Buenos Aires.
Donc Mauricio Macri en Argentine, centre droit.
Oui, donc et lui, il avait au même moment, donc qu'au niveau national, il y avait le plan Jefas y Jefas, parce que c'est comme le Bolsa Familia, mais pour l'Argentine. Au niveau de la ville de Buenos Aires, il avait un programme bien plus généreux. C'est vrai que la ville de Buenos Aires est bien plus riche que le reste du pays, mais aussi, ça c'est aussi important, bien plus généreuse envers les étrangers que le programme au niveau national. Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, Bolsonaro, il y a cette peur de se dire que comme il y a une espèce de stagnation depuis 5 ans, de cette diminution des inégalités, il y avait cette peur que
que Bolsonaro remette en question la Bolsa Familia au Brésil.
Exactement. Donc, on y croyait qu'il pouvait annuler. Il vient d'annoncer il y a très peu qu'il allait justement donner un 13e mois de transfert.
Et alors, comment expliquer justement que finalement Bolsonaro mène une politique sociale que l'on n'attendait pas ?
C'est vrai que ces programmes des transferts conditionnels mènent plusieurs gouvernements au pouvoir et ce n'est que 1% du PIB.
Programmes qui vont bénéficier au Brésil en grande partie aux populations non blanches, et Bolsonaro s'est quand même illustré pour un certain nombre de propos racistes, misogynes. Non mais c'est une vraie question. Comment vous interprétez le fait qu'il ne recule pas sur cette question sociale ?
Ces mesures ne représentent que 1% du PIB. Donc retirer ça, enfin vraiment ça pourrait avoir un coût politique énorme parce que ça représente un soutien aux revenus qui existe depuis 15 ans.
Une dernière question sur le Mexique qui, on l'a dit, a été pionnier en matière de politique sociale. Est-ce que c'est aussi lié à l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada qui a été signé en 1994? Il y avait cette idée de la part du Mexique de mettre en place des politiques de redistribution pour compenser peut-être les effets de la création de cette grande zone de libre-échange
Oui, certainement, mais pas uniquement. Et encore une fois, ici, Nora Luz, comme elle a vécu au Mexique, parce qu'elle est argentine, elle est allée faire son doctorat aux États-Unis à Berkeley. Ensuite, elle a été prof au Colegio de México. Donc, elle a aussi beaucoup travaillé sur le Mexique. Et c'est elle, finalement, qu'elle révèle une particularité assez intéressante des pays à faible revenu ou revenu moyen, comme ceux d'Amérique latine. C'est cette idée qu'il n'existe pas de politique contre-cyclique. Tous les pays de l'OCDE ont une politique contre-cyclique merveilleuse qui s'appelle l'assurance chômage, qui est en expansion au moment de la diminution du cycle et en rétraction au moment d'expansion dans le cycle. Et l'assurance chômage n'existe pas dans l'Amérique latine, mais de toute façon, ce n'est pas utile pour l'Amérique latine.
Comment ça ?
La structure du marché du travail est très différente. Il y a beaucoup de pauvreté rurale et il y a énormément d'informalité. Donc, il n'y a pas de manière de faire qu'un assurance chômage contribue. Donc, elle a retrouvé quelques exemples intéressants et pertinents de politique contre-cyclique en Amérique latine.
Dernière question, Vera Chiodi. Est-ce qu'il faut redouter aujourd'hui que les inégalités recommencent à augmenter dans certains pays d'Amérique latine ? Il y a des reculs qui ont pu être enregistrés ces dernières années, en particulier en matière d'extrême pauvreté ?
Si on y croit au travail de Nora Luz, j'y crois personnellement fortement, que les deux axes importants de diminution des inégalités sont d'une part les transferts monétaires conditionnés qui sont encore en place, et deuxièmement l'accès à l'éducation. Non, je n'ai pas une vision très pessimiste du futur.
Malgré une conjoncture économique qui ralentit.
Qui ralentit, mais cela n'est pas particulièrement dû aussi à un contexte interne, mais aussi à un contexte international qui, il y a aujourd'hui, de manière très récente, suite à la crise de 2008, les pays développés retrouvent la croissance et donc les capitaux, les investissements, les capitaux internationaux se dirigent de préférence et en priorité plus rapidement aux pays développés.
Merci beaucoup, Vera Chiodi, d'avoir ajouté l'ouvrage de Nora Lustig et de Luis López Calva à notre bibliothèque idéale de l'écho. On reparlera de l'économie sud-américaine plus en détail après la pause estivale. Un grand merci. Et c'est avec Polo and Pan que nous achevons cette dernière émission de la saison. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, sans qui rien n'aurait été possible cette année. Louis Drillon, Arjuna Andrade et Cédric Fuentes à la préparation des émissions thématiques. Léa Sabourin, Julie Delabrosse et Isot Sicard à la préparation des émissions du vendredi. Un grand merci également à nos réalisatrices Elisabeth Miro et Émilie Valla et à nos stagiaires Aliette Ovine et Guillaume Ménard. Le podcast d'Entendez-vous l'écho a atteint le million de téléchargements le mois dernier. Un immense merci à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. On vous retrouve donc à la rentrée. D'ici là, France Culture vous propose, comme chaque année, une formidable grille d'été. Ne ratez pas les grandes traversées consacrées à Virginia Woolf, Walt Disney et Louis-Ferdinand Céline. Quant à lundi, à 14h, vous retrouverez Les Pieds sur Terre présenté par Sonia Kronlund, puis le feuilleton d'Edith Loria, le mystérieux Monsieur Cornelius. Excellent été à tous et à l'année prochaine.